La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Retour ce matin sur les élections européennes. On va beaucoup en parler, leurs effets secondaires en Écosse. Figurez-vous qu'elles ont réveillé les tentations indépendantistes.
Et voilà qui ajoute un degré de complexité supplémentaire au dossier Brexit. Je vous laisse juger s'il en était besoin. C'est la BBC News qui nous alerte donc sur cette déclaration faite hier par la première ministre écossaise Nicola Sturgeon. Elle se dit déterminée à organiser un référendum sur l'indépendance de l'Écosse dans la deuxième moitié de l'année prochaine. Le cadre juridique, dit-elle, de cette consultation sera présenté dès demain au Parlement écossais. Autant dire, avec The Independent, que Sturgeon, dont on connaît depuis longtemps le projet indépendantiste, passe clairement à la vitesse supérieure. Et si elle, avec tout le camp indépendantiste, se sent pousser des ailes, eh bien, c'est parce qu'à la fois le Brexit est dans l'impasse et qu'il y a eu, dimanche, les élections européennes. Le résultat de ce scrutin à l'échelle de tout le Royaume-Uni a sonné, on l'a dit hier, comme un plébiscite en faveur des tenants d'un Brexit dur, incarné par un Nigel Farage et son parti, le Brexit Party. Mais si l'on regarde ce qu'ont voté les Écossais, on voit que le message là est tout autre. À Glasgow et à Édimbourg, les électeurs ont voté à 45% pour des partis indépendantistes, le SNP de Nicola Sturgeon en tête et également les Verts. Alors 45%, me direz-vous, ce n'est pas la majorité, et c'est ce que note d'ailleurs Louis Staples dans The Independent. Ça laisse 55% des suffrages aux unionistes, les partisans d'un maintien de l'Écosse dans le Royaume-Uni, qui ont fait campagne, eux, en ordre très dispersé, note le Scottish Herald. Il n'en reste pas moins que pour Nicola Sturgeon, le score fantastique de son parti ce week-end montre, selon elle, donc que les Écossais la soutiennent, qu'ils ne veulent toujours pas sortir de l'Union européenne contre leur gré. On rappellera qu'ils sont 62% à avoir voté en 2016 pour rester membre de l'Union, et donc que c'est le bon moment pour leur poser à nouveau la question de l'indépendance. En fait, nous dit The Guardian, les indépendantistes écossais capitalisent sur le repoussoir que constitue désormais, il faut bien le dire, le désastre Brexit, pour tenter de convaincre les derniers réticents. Lors du précédent référendum d'autodétermination écossais en 2014, le non l'avait emporté à 55%. Rien n'assure pour le moment que les 5% de la population qui manque a changé d'avis depuis. Rien n'assure surtout que ce référendum pourra être organisé l'an prochain. Pour cela, il doit être approuvé par Londres, et jusque-là, nous rappelle la BBC, Theresa May s'y est toujours fermement opposée, mais quittera ses fonctions le mois prochain. Ce sera à son ou à sa successeur d'empoigner le chardon. On savait que la question écossaise reviendrait un jour ou l'autre empoisonner un peu plus les négociations sur le Brexit. Eh bien, il semblerait que ce moment est arrivé.
Et pendant ce temps, Emmanuel Macron prend la direction des opérations pour choisir le prochain président ou la prochaine présidente de la Commission européenne, Camille.
Alors là, c'est la cuisine politique européenne par excellence, et ça tombe bien, c'est autour de la table que ça se discute depuis hier soir entre chefs d'État de l'Union européenne. Chacun, selon son pays et selon sa famille politique, essaye de trouver des alliés pour que son candidat soit retenu au détriment, si possible, de celui de ses rivaux au sein de l'UE. Et c'est donc autour d'un dîner à l'Élysée hier soir avec le socialiste espagnol Pedro Sanchez qu'Emmanuel Macron a ouvert le bal des négociations, selon le portail spécialisé Euractiv. Et ça va se poursuivre ce midi à Bruxelles avec un déjeuner de travail prévu avec le même Pedro Sanchez, le portugais Antonio Costa et le néerlandais Mark Rutte. Tous les trois, note El País, sont issus ou bien de la gauche ou bien du centre libéral européen. Et c'est donc bien au centre-gauche qu'Emmanuel Macron et Pedro Sanchez semblent vouloir organiser une offensive pour priver la droite, le Parti populaire européen, du poste de président de la Commission. C'est d'autant plus osé comme stratégie que le président français avait laissé entendre avant les élections du week-end dernier que son parti, La République En Marche, pourrait rejoindre le groupe PPE à Strasbourg. Finalement, il semble prendre le chemin d'une alliance libéraux-sociaux-démocrates, constate aussi le Financial Times, et ça met Emmanuel Macron très nettement en opposition avec l'Allemagne. Car la CDU d'Angela Merkel, on le sait, soutient son candidat Manfred Weber pour la présidence de la Commission. L'entourage d'Emmanuel Macron laisse entendre que la France ne veut pas de lui. Reste à savoir de qui la France pourrait vouloir à la place de Weber à Bruxelles. El País constate que Paris laisse pour le moment un maximum d'options ouvertes et pourrait aussi bien se retrouver dans les jours qui viennent à soutenir la candidature d'un Michel Barnier, pourtant issu des rangs de la droite française, d'une Margrethe Vestager, libérale danoise, ou d'un socialiste comme le néerlandais Frans Timmermans. Tout sauf Manfred Weber, donc la chancelière Merkel. Note enfin, le Financial Times n'a plus évoqué la candidature de son compatriote depuis dimanche soir. Der Spiegel constate que le Bavarois de la CDU commence à sentir les vents européens tourner contre lui. Mais on ne saura pas tout, bien sûr, des secrets de la cuisine interbruxelloise, sinon que tout cela va se discuter entre dirigeants de l'UE ce soir autour d'un dîner, bien entendu.
Et puis Camille, l'Europe, ce sont aussi des alliances industrielles qui se font et se défont. Celle dont on parle beaucoup en ce moment, c'est une alliance entre Fiat Chrysler et Renault Nissan. Elle pourrait nous rappeler certains passages du Parrain.
Et c'est vrai qu'il y a un véritable parti pris narratif de la part du Wall Street Journal qui publie l'article dont je vous parle à présent. Parti pris narratif à nous raconter l'histoire de cette demande en mariage industriel entre constructeurs automobiles sous l'angle de la saga familiale et judiciaire. Il y a donc à l'origine de ce rapprochement intercontinental un mort à Zurich, une spectaculaire arrestation à Tokyo et les appétits d'un riche héritier new-yorkais. L'arrestation, vous l'aurez compris, c'est celle de Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault-Nissan, tombé en disgrâce. L'héritier new-yorkais, c'est John Elkann Agnelli, qualifié par le Wall Street Journal de rejeton de l'une des plus puissantes familles industrielles d'Europe. Après une enfance passée à parcourir le monde et à apprendre 6 langues, le fringant playboy est devenu vice-président de Fiat en 2004, mais il n'a pas pu affirmer ses ambitions pour le groupe avant la mort à Zurich, donc en juillet dernier, du patriarche Sergio Marchionne. Lui, c'était le directeur exécutif de Fiat Chrysler. Ses relations avec Carlos Ghosn étaient notoirement détestables. Il a donc fallu que le premier pousse son dernier soupir et que le second soit mis hors jeu par la justice nippone pour que le projet de mariage Fiat-Renault revienne sur la table. Et c'est ce qu'on appelle remettre de l'humain dans l'économie. C'est un article passionnant, donc, que je vous recommande chaudement dans les colonnes du Wall Street Journal.
Merci beaucoup Camille Magnan. On va remettre aussi du moteur Renault dans des Fiat.